Sur Belle RTL, ils vous font rire.
Bonjour Sandrine, oh, ça fait bizarre de vous voir en vrille.
André Lamy et Olivier Le Borgne passent en revue l'actualité à leur manière.
Mais allez, c'est quand même pas ma faute si j'ai pas trouvé de combi de police. Hein.
Votez pour moi, c'est culte et c'est sur Belle RTL à 8h15 du lundi au jeudi.
Faut dire que les parents, ils ne font jamais grève.
Belle RTL, on est là pour vous faire rire.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
En répondant à 38 questions sur 2614, le roi Philippe vous a-t-il convaincu? Diriez-vous qu'il a une vie normale et qu'il est plus proche des citoyens désormais après avoir répondu pendant 40 minutes aux questions des citoyens dans cette vidéo? C'est un challenge que les enfants lui avaient proposé. Il répond donc dans cet exercice de communication dont on retient en vrac sa morning routine. Il se lève à 7h, prend le petit déjeuner, lit les journaux, prend un quart d'heure pour méditer, puis joue du piano et va ensuite au palais travailler. Il y a son commentaire sur la retraite, est-ce que j'ai atteint l'âge de la pension, moi? Et puis son avis quand on lui demande s'il n'a pas envie d'intervenir un peu. Est-ce que le roi vous a convaincu? Ah ben encore un extrait, tiens, de cette vidéo publiée hier soir sur les réseaux par le palais. Une dame demande au roi s'il n'a pas envie à un moment de donner son avis sur l'actualité, sur les mouvements sociaux par exemple.
Donc madame, vous avez raison que j'ai un droit de réserve en public. Mais pourquoi j'ai ce droit de réserve? Parce que je représente tous les Belges. Et toutes les opinions. Et si je suis récupéré par un camp, je ne sais plus rassembler les gens. Or ça, je pense que c'est une tâche très importante, c'est de rassembler les gens. Mais ne vous en faites pas, je dis ce que je pense. Et en privé, en colloque singulier, je donne mon opinion et je dis ce que je pense.
Bon, alors qu'en pensez-vous maintenant, 33-23 à Bruxelles? Marc, bonjour.
Bonjour, Benjamin.
Est-ce que le roi vous a convaincu?
Mais la famille royale, en général, m'a toujours convaincu. Nous avions un très bon roi qui s'appelait Albert, et aujourd'hui, nous avons Philippe, qui a très bien pris le remplacement, et je trouve qu'il représente quand même la Belgique, qui donne un cachet à la Belgique que nous n'aurions pas.
Mais donc, il ne faut plus s'inquiéter pour tous ceux qui ont peur, parce que je lis au 33-23 que c'est une marionnette. Pour tous ceux qui ont peur qu'il n'ait pas d'avis, il n'y a pas à s'inquiéter, il a un avis.
Oui, il a un avis, ben, il changera, c'est tout. Et sa fille est déjà fort aimée au sein du pays. Elle est très simple. Elle fait des études pour le moment. Elle a une jeunesse aussi à passer, c'est vrai.
Alors, vous dites quoi de ce chapitre, effectivement, sur Elisabeth? Il dit, moi, je veux lui laisser le temps de profiter de sa jeunesse. Donc, je reste en poste.
On peut comprendre un papa, quand même. Hein, on peut comprendre. Hein.
C'est le sacrifice d'un père, ça, que vous entendez là-dedans?
Bien sûr, c'est pas un sacrifice. Vous employez des termes très... très, très fort, non, c'est les choses de la vie qui peuvent se passer dans une famille royale comme dans une famille lambda.
Ah ben, l'attitude du souverain vous a donc convaincu et sa réponse aussi. Marc, Bruxelles, vous êtes enregistré dans le camp des plutôt favorables. Allons voir à Arlon quelle est la tonalité. Catherine, bonjour.
Oui, bonjour Benjamin.
Catherine, exercice de communication hier du palais. Est-ce qu'on peut réécouter ensemble la morning routine du roi?
Je me réveille à 7h du matin. Je prends mon petit déjeuner, le café, très important, ensemble avec mon épouse. Je lis les journaux. Ensuite, je prends un quart d'heure pour moi de méditation. Ensuite, je joue un quart d'heure au piano. Je vais au palais.
Catherine. Est-ce qu'il est plus proche des citoyens que jamais?
Bah, plus proche, qu'est-ce que vous voulez dire par plus proche? Je trouve qu'il a c'est un matin assez semblable au matin de plein de gens. Alors peut-être que tout le monde ne joue pas un quart d'heure de piano, mais beaucoup vont être sur leur téléphone à jouer ou sur leur tablette. Donc chacun a sa détente.
Il y a une chose que vous auriez eu envie de lui demander pour voir s'il a répondu aux interrogations citoyennes, parce que le palais a choisi 38 réponses sur 2614, mais il y a une chose que vous auriez voulu savoir?
Oh, rien de plus que ce que j'ai entendu dans toute la séquence, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé en plus qu'il avait pas mal d'humour. Oui, non, moi, il n'avait pas à me convaincre. De toute façon, j'étais déjà royaliste avant. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Je l'ai trouvé simple.
Et serein. L'avez-vous trouvé serein?
Oui. Oui, tout à fait. Je l'ai trouvé relativement à l'aise avec l'exercice. Bon, j'imagine que les questions avaient été choisies avant, hein, et qu'il n'a pas été pris au dépourvu.
Ah oui, de toute évidence, il y a un petit peu de préparation, sans doute, mais vous l'avez trouvé à l'aise et simple. Ça répond parfois à ces éléments de forte tension qui gravitent autour de la famille royale, sur la fonction notamment, et pas toujours sur l'homme en tant que tel. Merci Catherine. Dans mon portable, j'ai un spécialiste des monarchies, historien à l'Université de Louvain, Vincent Dujardin, en ligne, bonjour. Vincent Dujardin en ligne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour commenter l'actualité avec nous. De mémoire d'observateur, se livrer à ce point-là sur l'intime, je montre mes tableaux, je montre mon chien, je livre des anecdotes personnelles de vie, des souverains belges avaient déjà été aussi loin dans l'intime?
Non, c'est un exercice assez inédit, hein, pour un roi, pas seulement en Belgique d'ailleurs, à ma connaissance, de répondre ainsi si directement aux citoyens. C'est vrai qu'il y avait quand même déjà eu l'année passée un film à l'occasion duquel le roi se racontait lui-même ses 10 années de règne à l'occasion d'interviews, mais sans être filmé, il y avait seulement le son, et il racontait aussi les événements politiques tels qu'ils les avaient vécus. Ici, c'est les citoyens eux-mêmes qui ont pu interpeller le roi, et ça, c'est à ma connaissance inédit.
Est-ce qu'il n'y a pas un manque dans l'ensemble des 40 minutes? N'était-ce pas une occasion de raconter un peu mieux le travail et sa charge professionnelle? Est-ce que la partie professionnelle n'est pas un poil survolé?
Apparemment, ce n'était pas un exercice sur le métier de roi. Il répondait aux questions que les citoyens lui posaient. Évidemment, c'était des questions qui n'étaient pas politiques. Ça, c'est assez normal, parce que si vous répondez à des questions politiques, là, il faut directement le contre-saint ministériel. Le roi prend des positions politiques. Il peut même prendre des positions politiques fortes. On l'a vu encore en janvier dernier, lors de son discours devant les autorités du pays, où il a quand même critiqué de façon à peine voilée la politique commerciale de Trump à l'époque, par exemple. Mais ici, on était évidemment dans un style plus familial, plus personnel, où l'exercice était plutôt de voir un roi à l'écoute des gens qui ont l'habitude de voir le roi dans l'exercice de ses fonctions, avec son caractère formel, avec le protocole. Ici, ça permet d'en savoir un peu plus sur l'homme qui se cache derrière la fonction. Je pense que c'est tout simplement ça que l'on a pu voir.
Vous saviez peut-être, eu égard à vos fonctions et à votre travail, mais pour la population, que doit-on en conclure? Est-ce qu'il est une main de fer dans un gant de velours, puisqu'il dit « j'ai un avis » et en colloque singulier, je le donne. Est-ce qu'il est main de fer dans un gant de velours?
Non, ça, je pense que tous les Belges comprennent bien qu'effectivement, il ne peut pas prendre des positions tranchées qui le mettent dans un camp, sinon il n'est plus utile. Un roi qui prendrait position pour tel ou tel parti, pour tel ou tel groupe linguistique, il n'est plus utile. Le roi doit être un go-between, doit être un lien, doit être un jeteur de pont. Et c'est comme ça qu'au moment de la formation des gouvernements, il peut exercer ce rôle. S'il se place dans un camp, en donnant ses opinions publiquement et en choisissant un groupe politique ou un groupe linguistique, là, il n'est plus utile. Ça, je pense que tous les Belges peuvent comprendre qu'il y a cette prudence certaine qu'il doit avoir. Ce qui ne veut pas dire que dans l'exercice du colloque singulier, il ne puisse pas effectivement donner ses opinions, suggérer des pistes. Et de toute façon, c'est le politique qui décide après. Ce sera qu'une magistrature d'influence qu'il pourra tenter d'exercer.
Ah oui, ainsi va la fonction royale, effectivement, en Belgique. Magistrature d'influence. Merci Vincent Dujardin, vous êtes historien et professeur à l'Université de Louvain.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Allez, on tourne la page du journal maintenant. Deuxième visage de l'actu. C'est un acteur clé de la bataille de Waterloo et de ses reconstitutions. Les 28 et 29 juin prochains à Waterloo, reconstitution de la bataille, racontée par Stéphane Bern. L'histoire est connue, c'est l'ultime bataille de Napoléon, battue par les Alliés. Des centaines de reconstituteurs seront de la partie, et parmi eux, le maréchal Ney, alias Francky Simon, incollable sur la période. Il est à la fois le metteur en scène de l'événement et reconstituteur hors pair. Francky Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez les favoris qui sont ceux de votre personnage. Alors, le maréchal Ney que vous incarnez.
Tout à fait.
Avait des favoris?
Oui, d'office. Mais ici, je suis pas roux, mais pour l'événement, je serai roux.
Ah oui, voilà. Encore un petit peu de temps.
C'est ça.
28 et 29 juin. Alors, les reconstitutions en fonction des années, des événements du calendrier sont plus ou moins grandes. Combien de reconstituteurs attendus, là, au mois de juin?
Plus ou moins 2500.
2500 reconstituteurs. Et vous allez donc reconstituer la bataille. Alors, on est le 18 juin 1815. Quelques questions, comme ça, on est tous à niveau. Bataille sur le champ de bataille. Vous me répondez du tac au tac pour la leçon d'histoire. Durée de la bataille de Waterloo?
Début 10h30, fin 21h30.
Ah oui, donc c'est une journée de travail, si j'ose dire. Ouais. Combien d'hommes au total impliqués?
Français, je dirais 73 000 et alliés un peu moins, 68 000.
73 contre 68 000. Ouais. Dans les reconstitutions, est-ce que vous parlez comme à l'époque? Est-ce qu'ils parlaient comme nous à l'époque d'ailleurs?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Ils avaient un français beaucoup plus strict et beaucoup plus travaillé que maintenant.
Alors, imaginons que je vous survole en drone. Est-ce qu'il y avait des couleurs de soldats? Donc, il y a Napoléon d'un côté, battu par les autres. Est-ce qu'il y a des couleurs dans les camps?
Alors, on va dire en généralité, les Anglais, c'est rouge, les Français, c'est bleu, et les Prussiens, c'est noir ou vert.
Bataille de Waterloo, 18 juin 1815, Napoléon est défait par la coalition des alliés dirigée par le duc de Wellington et le maréchal Blücher, défait donc par les Britanniques, les Néerlandais et les Prussiens. Vous êtes un des personnages clés de ce combat que vous remettez en scène, mais vous n'improvisez pas, vous ne changez rien, vous reconstituez l'histoire.
J'aimerais bien gagner, mais je ne peux pas.
Oui, on ne peut pas changer le fil de l'histoire, il n'y a que dans les films que ça marche. Alors Francky Simon, notre invité, vous êtes le maréchal né sur le terrain dont on reparlera. Boîte à questions s'il vous plaît pour vous.
Dans les images marquantes de la bataille de Waterloo, on voit souvent Napoléon le regard vide et lointain. On voit aussi des soldats avec des baïonnettes. Se tirait-on dessus à l'époque ou se battait-on encore à corps avec la baïonnette?
Ouais, alors c'est une bataille de tir ou une bataille de tchac-tchac-tchac couteau-baïonnette?
Alors il y avait Suvarov, il a dit une bonne chose, la baïonnette est sage, la balle est folle.
Oui.
Ça veut tout dire.
Ça veut dire qu'il vaut mieux mourir sous la baïonnette ou mourir sous le feu des balles?
Je pense que c'est mieux de mourir sous le feu des balles.
Ok, je note cette leçon pour plus tard. Merci de me mettre en garde. Boîte à questions, s'il vous plaît.
Le maréchal Ney était roux. Vous n'êtes pas roux.
Non, d'office. Oui, c'est un constat, c'est réel, mais je le serai.
Oui, vous faites une teinture chaque année pour la reconstitution.
Ouais. Pour les gros événements, en fait, c'est comme un peu un rôle d'acteur. Hein. Donc ici, je fais Ney, mais je pourrais faire Murat ou par exemple Iallini. Et là, je fais Grouchy, quoi. Donc je change de personnage et je change d'uniforme alors.
Ah oui, c'est ça. Mais donc vous avez une palette.
Ah, j'ai une grosse palette d'uniformes. Ouais.
Ce qui veut dire que sur chacun des personnages, vous êtes incollable ou pas?
Ney, c'est vraiment ce que je connais le mieux, puisque c'est vraiment Waterloo que je fais depuis 26 ans.
Ouais.
Mais je dois étudier chaque fois les personnages. Hein.
Ah bah alors je vais vous laisser le temps de la pause pour réétudier un peu, parce que je voudrais qu'on tranche un truc. Donc Napoléon comprend bien que c'est l'empereur, il a été défait à Waterloo. Il y a le maréchal Ney, dont on a dit qu'il était traître, parce que un coup je t'aime Napoléon, je suis avec toi, un coup je suis dans le camp adverse. Donc vous me dites dans un instant si on a affaire à un traître. C'est une leçon d'histoire où il faudra trancher. À tout de suite.
Il mériterait d'être dans le journal avec Premium Automotive, Jean Blou.
Les pluies d'hiver sont arrivées, plus rien ne marche dans la machine. Tes rires d'hier pour me bercer, à ton éclaté la poitrine. Ces ombres de 100 cœurs qui embrument nos pensées. Toi tu m'animes jusqu'à pas d'heure, sans aucune morosité. Couleur orangée de ton rouge à lèvres, j'y pense encore quand tu te lèves. Pas de doute, doute sur ta douceur. Mais personne n'entend la machine. Ton odeur sans mon lacet devenait ma dose d'adrénaline. L'ivresse du passé qui nous a abandonnés. Tu trouves ça drôle de te cacher, comme si tu aimais tout gâcher. Couleur orangée de ton rouge à lèvres, j'y pense encore quand tu te lèves. Pas de doute, doute sur ta douceur. Couleur, couleur. Je brûle quand j'y pense, j'ai des vertiges d'amour. Vénus me jalouse, donc je rêve en silence de passer ensemble des milliers de jours et de nuits sans retour. Pas de doute, doute sur ta douceur.
D'être dans le journal.
C'est la bataille de Waterloo ce matin. Reconstitution à Waterloo les 28 et 29 juin prochains sur le champ de bataille. Napoléon, toutes les forces ennemies et le maréchal Ney, alias Francky Simon, qui est notre invité ce matin. Donc 28 et 29 juin, reconstitution, il y a tout le monde. Mais vous répétez pas alors, vous débarquez le jour J sur le terrain.
C'est ça, oui. Donc c'est pas possible de répéter, on est 2500, donc c'est très compliqué. On peut, et puis ça coûte cher, hein, la poudre coûte très cher.
Ouais.
Et donc dans chaque pays, chaque bataillon, régiment va se former au règlement de la nation qui porte l'uniforme. Donc il va répéter l'école du soldat, l'école du peloton et l'école du bataillon, et puis ça va être assimilé, et sur le terrain il écoute les ordres que les chefs de bataillon lui donnent.
Ah, donc a priori tout le monde connaît un peu l'histoire, mais donc si le commandement dit aller à gauche, ils iront à gauche, on dit aller à droite, ils iront à droite.
Voilà, ouais.
Ok, et tout ça devant la butte du Lion de Waterloo.
C'est ça, c'est vraiment, en fait, le terrain où on va se battre, c'est le terrain réel entre la Haie Sainte et la butte du Lion.
Ouais, donc vous situez la zone, c'est là que ça va se passer.
C'est ça.
Mets-moi un orage qu'on tranche cette histoire. Parce que vous faites le maréchal Ney, qui est donc du côté de Napoléon le jour de la bataille, mais, je fais l'histoire pour les nuls, Napoléon a été défait, donc on l'envoie en exil sur l'île d'Elbe. Bon, il est là tout seul sur son petit rocher qui fait genre 200 mètres carrés, il s'embête, il revient. Mais quand on apprend qu'il revient, le maréchal Ney dit, moi je vais vous le remettre dans une cage en fer, le Napoléon.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ah, mais donc quoi, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas?
Alors, à l'époque, c'était un contexte géopolitique très compliqué, hein. Donc il faut savoir que il y avait un livre qui existait, qui existe toujours, si vous le trouvez, ça s'appelle Les Girouettes. Et les girouettes, c'est le nombre d'étoiles. Je crois que le maréchal Ney a 4 étoiles sur 5.
Ah ouais.
Ouais. Et bon, c'était un peu compliqué parce que ça se passait mal. Et bon, je peux pas tout raconter parce que là, on en a pour des heures.
Mais il meurt à la fin.
Voilà, oui, d'office, comme tout le monde. Hein, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le contexte géopolitique était très, très complexe à l'époque.
Ah, parce que selon les ouvrages, on dit traître, non, on l'a mal compris. Enfin, moi, si on me dit que je ramène quelqu'un dans une cage en fer, je dis quand même un peu traîtrise, quand même.
Ouais, mais il y a eu toute une mise en scène qui a été faite parce que Soult a joué une grosse partie. Il pouvait pas voir le roi, puis il a été voir le roi. Enfin, il y a vraiment une grosse histoire et c'est très intéressant à lire la vérité comment ça s'est passé parce que en fait, oui. Évidemment on raconte beaucoup de bêtises.
Bah, je vous le confesse, là ce matin rapidement je fais l'histoire pour les nuls, donc je saute quelques lignes, ça je vous le confesse.
Ah, voilà.
Allez, boîte à questions, on va voir si elle est précise.
Juste avant la bataille de Waterloo, il y a beaucoup plu. Doit-on vous souhaiter une reconstitution pluvieuse et boueuse ou vous voulez que la météo trahisse l'histoire?
Alors là, je suis pas Dieu, je ne sais pas savoir quel temps il va faire.
Mais il faisait dégueulasse en 1800.
Il faisait dégueulasse le terrain, mais il faisait dégueulasse pour les deux, parce qu'on a pu qu'ils ont pas su manœuvrer, mais les deux ont eu les problèmes techniques avec les pièces d'artillerie.
Ouais.
Donc le facteur de temps n'a pas été un facteur de défaite pour les Français.
Mais donc en vrai, parce que comme vous êtes passionné par l'histoire et très précis, vous souhaiteriez qu'il pleuve ce jour-là? Ou vous souhaitez du soleil pour que ce soit plus facile?
Moi, je préfère qu'il pleuve.
Ah, vous préférez les conditions réelles?
Parce que nous, on est en drap de laine, donc le public, il est sympa, il est au soleil, mais nous, on souffre.
Ah, c'est ça.
Voilà, il n'y a pas une tenue, à l'époque, il n'y a pas une tenue d'été.
Ok, donc alors, comment dit-on? Je vous souhaite de la pluie.
Voilà, mais...
c'est bizarre de dire ça en Belgique, mais bon. Allez, voici Imagination. Music playing. De l'agenda 28 et 29 juin Waterloo, bataille de Waterloo, c'est Stéphane Bern qui raconte. On a le maréchal né Francky Simon devant nous. Qui fait Napoléon alors?
C'est un Américain, c'est Mark Schneider qui fait ça depuis aussi presque 15 ans ou 20 ans même, je pense.
C'est quand même dingue, l'ironie du sort. C'est un Américain qui fait l'empereur Napoléon. Quand
ouais,
même.
Ouais, ouais. Mais bon, il a quand même une souche française. Ah. Et il parle français d'ailleurs.
Et il y a d'autres Napoléons dans le monde.
Alors oui, il y en a plusieurs maintenant. Il y a un Belge qui est Jean-Gérard Larsin.
Eh
et il y a un Italien. Et je crois que c'est plus ou moins tout.
Ah mais c'est pas énorme parce non, que c'est pas énorme. D'Elvis Presley, il y en a des centaines. Mais là, sur Napoléon, on en a pas beaucoup.
Mais il y a une certaine rigueur chez nous. Donc,
De là à dire que les sosies d'Elvis Presley valent ce qu'ils valent.
Voilà. Bon, moi, j'y connais rien à Elvis. Hein, donc.
Francky Simon, notre invité ce matin. Je voudrais vous parler des trucs qui fâchent dans un instant, tout de suite.
Belle RTL, belle. Vibrez ensemble. We'll be right back.
prêt d'être dans le journal.
Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Francky Simon, notre invité, avant la bataille de Waterloo, il est le maréchal Ney. Oh, petit orage au passage. Donc, combien de reconstituteurs seront là le 28 et le 29?
2500, plus ou moins.
Et ils sont payés pour faire ça?
Ah non, c'est tout bénévole.
Tout bénévole?
Oui.
Ben, tout le matériel, tous les costumes, tout, tout, tout.
Oui, bah, c'est comme ça. Je veux dire, on voyage beaucoup et on participe aux événements. Il y a des événements qui payent, des événements qui payent pas. Et alors, si vous devez payer 2500 personnes, ça devient compliqué. Si vous devez nourrir 2500 personnes, ça devient compliqué, puisqu'il y a une masse.
Ah, donc ils viennent avec leur pique-nique aussi. Donc, dans chaque bivouac, voilà. Dans chaque campement, ils ont leur propre nourriture.
Alors ici, on a de la chance, c'est ce qu'on va recevoir. Donc, on a la mémorial à chercher et à trouver de quoi substanter nos troupes. Des deux côtés, donc il y a des carottes, il y a des pommes de terre, des oignons, et voilà, on se nourrit de ce qu'on trouve.
Hein. Ah oui, on n'est pas sur un 6 étoiles, on est vraiment sur le champ de bataille.
Voilà, c'est ça, quoi. Et on mange, comme à l'époque, hein, avec la marmite et...
Donc les forces en présence en 1815, c'est des soldats à bout de force qui sont là, ou c'est des soldats bien nourris, qui sont vaillants?
Alors, les Français ont plus ou moins 3 jours de marche, ils n'ont plus rien à manger. Les Alliés, ils ont encore de la marche, puisqu'ils sortent de Bruxelles et il y a un approvisionnement qui se fait, mais les Français n'ont pas une grande capacité.
Ah, donc ceci peut peut-être expliquer en partie cela, c'est-à-dire la défaite de Napoléon.
Non.
Non, non, okay, c'est pas l'alimentation. Non. Oh, permettez-moi la musique triste 2 secondes. 2015. C'est la reconstitution par excellence. Il y a 6200 figurants. C'est le jour J, la reconstitution. Vous êtes censé évidemment en faire partie, sauf qu'au moment de tester un peu les choses, vous prenez un cheval qui n'est pas le vôtre, beaucoup plus robuste, accident, et vous êtes blessé.
Oui, vous prenez avec philosophie.
Sauf qu'à l'époque, tout le monde l'écrit, c'est le drame, parce que c'est le jour J. Qu'est-ce qui vous est arrivé en fait ce jour-là?
Alors, donc, pour pas utiliser trop mon cheval et fatiguer mon cheval, j'avais pris un deuxième cheval que je n'avais pas testé et il était tout à fait à l'opposé de mon cheval. Moi, j'ai un petit cheval espagnol, très maniable, et là, je suis tombé sur un sel allemand énorme.
Oui, un 700 kilos, 1m80 en garrot.
C'est tout à fait, voilà.
Un
super cheval, mais énorme. Donc, j'arrive dessus, je suis complètement perdu. C'est pas un problème, normalement je dois m'adapter. Et là, je mets un mort qui ne convient pas du tout à ce cheval et il n'accepte pas mon mort. Et là, il me chasse et pas de bol, quand il me chasse, mon pied reste calé dans l'étrier. Et là, je me suis retrouvé avec 9 fractures.
Oh.
Et ça a été c'est assez... Allez. Avec le passé, on va dire, c'est assez comique parce que moi, comme Ney est tombé plusieurs fois assis à cheval, moi aussi je suis tombé, mais là je me suis fracturé, mais j'étais présent sur le champ de bataille directement le vendredi.
Ah oui, vous êtes dans le show Must Go On parce que vous faites le combat.
Ouais, mais ils m'ont pris pour un grand malade, je suis un grand malade sûrement. oui. Donc à l'hôpital, il y avait plusieurs médias qui appelaient quand j'étais en train de me faire recoudre l'oreille et au téléphone, la chirurgienne, elle a dit, mais bon, ça va. Et ils étaient en train de recoudre, donc j'entendais chaque fois les aiguille qui rentrait et qui sortait de mon oreille.
Ah ouais.
J'ai dit, je dois y aller. Alors il dit, mais non, vous avez la clavicule en 3, vous pouvez pas y aller. Je dis, si, vous faites ce que vous voulez, mais je pars.
Mais alors le lundi, vous étiez dans quel état? Vous deviez être...
Dans un état catastrophique, on va dire. Ça a été l'adrénaline.
Oui, parce que vous le dites avec le sourire, mais à l'époque, quand on lit la liste des fractures, l'accident, c'était pas rigolo jojo, quoi.
Non, mais j'étais pas amputé, donc je suis allé.
Ouais. Okay. Alors c'est l'incarnation parfaite du show Must Go On, mais... À l'extrême. Vous avez un vrai travail dans la vie, non pas que ce soit pas un vrai travail reconstituteur, mais c'est au départ né d'une passion. Vous avez un vrai travail dans la vie?
Ouais, je travaille à la Bibliothèque Royale à Bruxelles.
Ok, et ça c'est une passion alors dévorante que vous faites depuis quel âge?
Je fais ça depuis tout petit, puisque c'est ma grand-mère qui a commencé avec des lectures de mémoires de Bourgogne et de Cugnet. Et j'ai fait des petits soldats, et après j'ai commencé à lire des livres, et j'ai eu la chance de rentrer à la bibliothèque quand l'informatique n'existait pas encore. Donc là, c'était un puits de connaissances incroyable, une bibliothèque.
Ah ouais.
Et j'ai su savoir ce qui était intéressant, pas intéressant, réel, pas réel, qui a été transformé, pas transformé.
Ah, vous avez pu faire le tri, donc c'est comme ça que vous avez gravi.
C'est ça, voilà, et ça part.
Et gravi les échelons, parce que vous étiez soldat au départ, mais là, vous êtes le maréchal Ney. Boîte à questions, s'il vous plaît, pour le maréchal, du coup.
La plupart des reconstituteurs manipulent des armes. Avez-vous une école de la maîtrise des armes et du cheval où chacun a self-made man et se forme seul?
Non, parce que donc il n'y a pas de répète, ça j'ai compris, mais vous formez où? Vous entraînez où?
Alors, on a un règlement. Donc, pour ce qui est français, c'est le règlement de 1791. Donc, ce règlement est très correct puisque, en fait, il protège tous les maniements d'armes pour que vous n'ayez jamais la bouche à feu, donc le canon du fusil, près de votre visage ou de votre voisin.
Ah ouais.
Et tout est vraiment, c'est des hommes d'armes. Donc, on reprend exactement le même maniement et qui est étudié. Donc, ça s'appelle l'école du soldat. Et quand vous avez la connaissance, vous passez à l'école du peloton, et une fois que vous avez la connaissance du peloton, vous passez à l'école du bataillon.
Ah, c'est très codifié, quand
même.
Ah,
c'est super codifié.
Ah, ouais. Attendez, mets-moi un petit orage au passage, quand même. Est-ce que vous avez déjà revisité un peu l'histoire? Parce qu'après tout, c'est des hommes, c'est des grands groupes à manipuler sur un terrain grand. Il n'y a jamais eu de revisite un peu ou d'approximation?
Si, il y a toujours un côté improvisation aussi, parce que c'est comme vous l'avez dit, on n'a pas de répétition. Mais par exemple pour l'arrivée, parce que les Prussiens ils arrivent assez tard ici, les Prussiens vont arriver quand même beaucoup plus tôt dans la bataille. Sinon ils ne jouent quasiment pas. Et identiquement la même chose pour la guerre française qui joue qu'à la fin.
Ah non, je dis ça pour les amateurs parce que Myriam envoie un SMS au 33-23, elle y sera le 28. Donc en entendant le récit passionnel, se réjouit de découvrir Waterloo, mais c'est pour être sûr que tout est vrai de vrai. Armez-moi un boulet de canon, pas un orage heureux. On dit toujours bataille de Waterloo. Ça se déroule à Braine-l'Alleud, hein.
C'est encore plus compliqué que ça.
En fait, moi, tous les territoires, alors.
Oui, il y a quatre territoires en jeu, en fait. Il y a Genappe, puisque là, c'est le dernier quartier général de Napoléon.
Et un peu plus loin sur la Nationale 5.
C'est ça, ouais, c'est un musée aussi. Puis vous avez Lannes-Plancenoit, où, si on calcule bien, c'est là où il y a la majorité des combats vont se faire. Et puis vous avez Braine-l'Alleud et vous avez Waterloo. Et alors, pourquoi le nom de Waterloo?
Pourquoi?
Ben parce que c'est Wellington qui a gagné. Il a décidé que ça s'appellerait Waterloo. Les Prussiens avaient décidé la Belle Alliance parce que c'est l'alliance entre l'Angleterre et la Prusse, mais ça n'a pas été retenu. Et c'est Wellington qui décidait. C'est Wellington qui a choisi.
Voilà, attention. 9h37, les enfants sont à l'école, mais leçon d'histoire pour les nuls. On y retourne. Donc on est le 18 juin 1815. Napoléon face aux Alliés. Il pleut. Alors pourquoi il a perdu? On dit que les communications sont difficiles, qu'il sait pas où sont les alliés, on dit que les troupes sont crevées, on dit qu'il y a des retards dans les attaques, on dit que c'est la météo, on dit que les Prussiens arrivent sur le flanc. Pourquoi Napoléon a perdu ce jour-là?
De mon avis, déjà les Anglais avaient bien préparé toute la situation parce que le son geôlier qui va être Hudson-Lowe va aller sur le terrain et voir les possibilités s'il y a une attaque française ou un retour français. Donc là il va choisir les positions et comme à l'époque les positions étaient toujours destinées et c'était comme ça les capitales, donc c'était Bruxelles qui était visée. Et normalement, Napoléon devait rentrer dans Bruxelles. Et l'endroit qui a été choisi est un endroit en fer à cheval, donc sur une hauteur, avec des bastions qui sont les fermes. Donc ça, c'est déjà un point fort. Les Français avaient perdu un des meilleurs chefs d'état-major qui était Berthier. Et il va être remplacé par Soult. Et que Soult n'a pas l'habitude du tout de jouer le chef d'état-major. Donc le chef d'état-major, c'est la personne qui va penser comme Napoléon dans les transmissions d'ordre.
Ah oui, donc il faut quand même là une carrure, quoi.
Voilà, et Soult n'a pas du tout la carrure que Berthier avait. L'autre problème, c'est les connexions, parce que là, il n'y a pas de GSM ou de talkie-walkie ou quoi que ce soit, c'est les chevaux, et il n'envoie pas assez d'informations. Donc il y a des bases qui sont militaires et des bases donc pratiques et théoriques, donc normalement, les corps d'armée ne doivent pas s'éloigner de plus de 5 km. Et là, le corps d'armée est beaucoup trop loin, il est du côté de Wavre, les Prussiens sont du côté de Wavre, ils sont remontés après la bataille de Ligny, et il y a un corps d'armée qui va poursuivre les autres corps d'armée, donc qui sont 3 corps d'armée et un corps d'armée qui... Ça, c'est compliqué.
Ouais, hein. C'est complexe.
Là, ça vient très loin, mais c'est pour ça que ça se fait. Ils se font avoir. Donc,
faut comprendre que c'est la fin d'un système, parce qu'après Napoléon, c'est fini. Basta, niet, voilà, et il part en exil définitif.
Voilà, ouais.
Il part en exil combien de temps après avoir perdu?
Il part assez rapidement, et c'est les Anglais qui choisissent la destination et qui le prennent sous sa... Il ne peut pas, en fait, c'est assez comique aussi, il ne peut pas mettre le pied en Angleterre, parce que s'il met le pied en Angleterre, ça devient un citoyen anglais.
Ah oui, donc c'est pour ça qu'il est sur l'île de Sainte-Hélène, qui n'est pas vraiment l'Angleterre.
Voilà, il était tout près des côtes anglaises, mais il n'a surtout pas mis les pieds en Angleterre.
Donc c'est une histoire d'île, hein, parce qu'il est sur l'île d'Elbe avant, il revient chez nous, il se prend une tatouille, et puis il part sur l'île de Sainte-Hélène. Ah, je vais quand même, monsieur le maréchal Ney, vous remettre après la pub une musique tristounette.
Ah.
Préparez-vous parce que c'est pas rigolo.
Jusqu'à 10h.
Il mériterait d'être dans le journal.
Il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans rire et sans soleil. Des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille. des jours où l'on apprend. Il y a des jours sentiments mais sans plaisir, des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur. Ces jours, je les connais par cœur. Il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Il y a des jours où tout est possible, où tout devient facile. Des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal. Des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien. Des dimanches matins, des matins plaisir, où on pourra dire. Il y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Et si le monde est beau, et si le monde est grand, ce sera un jour avec. Et si le ciel est gris et que le monde attend, ce sera un jour sans. Il y aura des gens aigris et des gens aimants. Là sous ma fenêtre, on fera mieux qu'hier et moins bien qu'aujourd'hui. Et toujours de l'avant. Il y a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans. Il y a des jours sans qui deviendront peut-être. Avec ou sans. Il y a des jours sans et des jours qu'on aime. Avec ou sans. Tellement puissant que face à nos problèmes. Avec ou sans.
Il mériterait d'être dans le journal.
La bataille de Waterloo, c'était en 1815 bien sûr, mais c'est reconstitué les 28 et 29 juin avec Francky Simon, reconstituteur en chef en quelque sorte, metteur en scène, vous êtes aussi le maréchal Ney. Alors, mets-moi la musique triste, parce que là quand même, donc Napoléon y part, île de Sainte-Hélène, exil. Mais vous, vous revenez à Paris, et vous allez être fusillé.
C'est ça, ouais. Ouais. Fusillé à l'Observatoire.
Ouais, c'est pas une fin, c'est pas une fin...
Né en réalité, et là tous les écrits le disent, je crois qu'il était fatigué et ça le gênait pas d'être fusillé au fait. Il était très tranquille, il a même demandé sa position, il a demandé « je dois me mettre où ?»
Ah ouais.
Ah ouais, et le rapport de la personne qui va à l'exécution et le système de sécurité, il le dit vraiment qu'il était d'une manière tout à fait détendue aller sur le site de son exécution, quoi.
Et il avait tout compris parce qu'il y avait eu simulacre de procès, mort votée, enfin il y a pas de surprise, il savait
qu'il devait avoir un jugement comme avant, ils ont fait le jugement du duc d'Enghien, mais ici ils ont pris Ney, quoi.
Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que l'histoire raconte qu'il y a un certain Excelmans qui propose de le faire évader.
Ah, il y en a plein qui ont voulu le faire évader.
Et, hein. Ben
et même, d'ailleurs, il y a eu plusieurs émissions et plusieurs recherches pour savoir qu'il n'était pas parti aux États-Unis.
Enfin, vous, pourquoi vous vous évadez pas?
Parce que je n'ai pas peur et je conçois que c'est l'État qui doit me juger. Voilà.
Ah ouais. Donc si vous arrivez maintenant, il parle pas vraiment en jeu. Hein, c'est parce qu'il est le maréchal Ney dans la reconstitution.
Voilà, c'est ça, voilà.
Tu me fais une boîte à questions, s'il te plaît, pour Francky Simon, notre invité.
Vous travaillez à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. À quel document très original, très rare, très éclairant? À quel document de ce genre avez-vous eu accès?
Vous avez vu une pièce, mais alors liée peut-être à la bataille de Waterloo, hein, mais une pièce majeure, quoi, le Saint-Suaire.
Évidemment, on a beaucoup de pièces intéressantes à la bibliothèque. On a, par exemple, on a les feuilles de saule qui sont revenues de Sainte-Hélène. On a une mèche de cheveux. On a le drap de laine mortuaire. On a les ouvrages de Isabée sur le sacre. Les deux ouvrages, donc il y a deux ouvrages qui sont intéressants et il explique comment c'est fait. Et
je vois à vos yeux que c'est important. Je vous avoue que ma culture ne va pas jusque là.
Oui,
je vois que ce sont des pièces importantes.
Oui, voilà. Et alors, pour moi, le plus important, parce que j'aime bien tout ce qui est tactique. Il y a évidemment tous les tactiques de Mézerois qu'on a à la bibliothèque, et aussi un livre qui s'appelle du général Meunier, qui est très intéressant, que normalement beaucoup d'historiens pensaient qu'il n'avait pas été écrit, mais il est écrit. Je l'ai retrouvé pas à la bibliothèque, mais en faisant des prêts interbibliothèques et bien loin en Suède.
Bon, ceci étant dit, si vous entendez une partie d'histoire ce matin, vous comprenez bien que l'histoire, quand on la relit, la revisite, est forcément passionnante. Vous la verrez en vrai les 28 et 29 juin. Donc il y a les tribunes, mais on peut aussi se mettre, on peut venir à Waterloo et regarder un peu ce qui se passe, quoi. Il y a du mouvement.
Alors, il y a des tribunes et il y a aussi des places debout. Et vous pouvez encore acheter maintenant sur le site, il y a encore de la place, mais il faut se dépêcher parce que ça part vite. Et il va faire bon en plus, donc ça va encore partir plus vite. Et
donc, fin de l'histoire, c'est pas là que vous mourrez. Hein. Vous n'êtes pas mort à Waterloo ni à Braine-l'Alleud, vous êtes mort à Paris. Voici Charlotte Cardin sur Bel Air Tel avec Feel Good.
Y a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
Ben, il a raison, monsieur Simon. Francky Simon, on était en train de discuter pendant Charlotte Cardin. Mais effectivement, il y avait des Russes. Enfin, il y avait des Russes dans cette histoire.
Alors, il y avait pas des Russes à Waterloo, mais il y a des reconstitueurs russes qui venaient en 2022, sont encore venus, et maintenant, ils sont plus là, évidemment.
Ils viennent plus.
Et des Ukrainiens aussi, d'ailleurs.
Ah, mais donc, c'est vraiment le mot n'est pas bon, mais un petit business mondial. Il y aura pas que des Belges dans ces reconstitutions.
Ah non,
c'est vraiment venu de l'Europe entière.
L'Europe est ailleurs, hein. Il y a des Australiens, mais comme l'empereur est déjà américain.
Ben, Napoléon est américain.
Donc, c'est vraiment mondial, quoi.
Et le pays dans lequel l'histoire de la bataille de Waterloo est la plus emblématique, la plus chérie, la plus marquée. Parce que parfois, l'histoire, l'actualité va tellement vite que...
C'est un peu comique parce qu'en France, moins. Il y a beaucoup plus d'engouement au pays de l'Est, dans les pays de l'Est.
Ah ouais.
Et en Espagne aussi. C'est comique.
Les Français, ils ont perdu. Puis c'est le changement de système pour eux. Et puis, il y a beaucoup de choses. C'est très chargé. Boîte à questions, s'il vous plaît. Pour Francky Simon, le reconstituteur.
Un jour sur la chaîne de télévision TVcom, vous étiez en train de fabriquer un costume dans un coin atelier. Vous avez vraiment cousu et taillé votre costume du maréchal né vous-même?
Ah ouais, je me souviens de cette image.
Ah ouais, oui. Alors en fait, moi je peux travailler le tissu, mais mon truc c'est le cuir et j'adore faire des selles en fait. Et
il y a selles de cheval.
Selles de cheval et ou des housses qui vont au-dessus. Mais alors le problème c'est que moi je veux une authenticité et je recherche vraiment ce qui était comme à l'époque. Et ici je suis en train j'ai fait une housse de selle, donc ce qui vient en dessous de la selle. Et après j'ai su avoir justement qu'on parlait de Russie des photos d'une housse de selle d'époque, et en fait quand je l'ai comparé je dis ah ben j'ai la même.
Ah oui, c'est incroyable, vous l'aviez.
Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, et après j'ai eu, c'est très rare d'avoir, c'est un saint graal d'avoir des pièces originales.
Mais donc là, ce qu'on verra le 28-29, si on vous voit au loin en maréchal Ney, c'est une pièce unique votre costume, vous en avez 4-5 dans la garde-robe?
Ah ben, comme à l'époque ils en avaient plusieurs aussi, hein, ils n'avaient pas qu'un seul uniforme, mais différentes type de tenue, de la plus petite à la plus grande, avec plus de broderie, avec moins de broderie. Et j'emploie une tenue qu'ils appellent un frac, et qui est une tenue de combat et qui est une petite tenue de travail, on va dire.
Ouais, on parlait tout à l'heure de l'accident de 2015, de vos côtes cassées. Là, vous remontez à cheval?
Trois mois après, j'étais de nouveau à cheval.
Hein. Ah oui, donc là, vous aurez un cheval, alors.
J'ai mon cheval, et là, j'ai même un deuxième cheval aussi, que je connais maintenant. Normalement, je ne devrais point chuter.
Il faut être pris pour apprendre, voilà. Effectivement. Ils ont tous un cheval, ou les soldats, ils sont à pied dans la
bataille? Alors, l'infanterie, c'est à pied, la cavalerie, c'est à cheval.
Ok, mais donc vous aurez tous les chevaux comme à l'époque, alors?
Alors, évidemment, beaucoup moins qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il y en avait je crois que c'était 12 000 cavaliers, et ici, on est beaucoup moins, et c'est, parce que ça revient très cher aussi, et les normes de sécurité, et les vaccins, et c'est très surveillé.
Et puis, si vous arrivez maintenant, c'est de leur poche, ils sortent tout de leur
poche. C'est surtout de leur poche aussi, ouais. Il y a un petit défrayement pour les chevaux, quand même.
Oui,
parce que ça revient quand même très cher, un cheval.
Mais le reste, j'ai bien compris que c'était à votre charge. Allez, boîte à questions.
Dans le bivouac, on trouve un râtelier. C'est quoi un râtelier?
Après l'histoire, la culture. C'est quoi un râtelier?
Un râtelier, normalement, c'est là où on dépose les fusils. Donc c'est ça, un râtelier.
Et quand on dit tu manges à tous les râteliers, c'est lié à ça?
Ben, c'est parce que là où il y avait les fusils, il y avait les marmites. On mange à tous les râteliers, ça vient sûrement de l'origine, vient de là, quoi.
Ouais, donc il y a un peu d'histoire, un peu de culture ce matin. Allez, la dernière boîte à questions, puis je vous laisse filer. Maréchal Ney, c'est pour vous.
Le maréchal Ney a été fusillé à l'âge de 46 ans. Est-ce que vous avez déjà reconstitué sa mort?
Oui.
Donc la scène finale.
Oui.
Vous avez fait ça où?
Alors, c'est pour le cinéma, donc on ne l'a pas fait à l'Observatoire, hein. Donc on l'a fait à Hougoumont pour France 5.
Ah, ils voulaient reconstituer alors en image pour un documentaire.
Et d'ailleurs, c'est très malsain. Parce qu'on a regardé comment ça s'est passé, c'était à 12 pas. Mais à 12 pas, vous voyez vraiment le rond du canon, l'intérieur du rond du canon.
Donc à 12 pas, c'est celui qui tire ses cartes de 12 pas.
C'est ça.
Et là, c'est vraiment un face à face.
Ah, c'est très 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 face à face. Et donc d'ailleurs, même pour j'ai fait reculer parce qu'on a des petites projections de poudre.
Ouais.
Et là, j'ai demandé de reculer. On avait vraiment calculé comme à l'époque et j'ai fait reculer parce que même moi, j'allais recevoir des impacts de poudre.
Et indépendamment de la sécurité, même vous, à ce point habitué, vous étiez impressionné par la scène.
Ouais, c'est malsain, c'est vraiment malsain.
Ah ouais, c'est dingue ça. Ouais. Et donc il fait 12 pas, hein, de 5 jusqu'à 12. Ouais. Dès qu'il se retourne, il tire ou il y a un temps d'attente?
Non, il le place et donc la position de fusil de pour fusiller est placée à 12 pas, donc il met ils abaissent l'arme, tire et il tombe.
Ouais, dis donc, fut un temps. 1815, on est en 2025.
Ah, chipotait pas à l'époque.
Hein. Ah ouais, non, mais j'entends que vous l'avez toujours en froid dans le dos. La reconstitution de Waterloo, c'est les 28 et 29 juin à Waterloo. Cherchez la butte du lion. Vous êtes déjà monté au sommet, j'imagine, quand même.
Ah oui.
Au moins une fois dans votre vie, j'espère.
Plus qu'une fois.
Merci, Maréchal Ney. Dit Francky Simon d'être venu ce matin.
Voilà. Merci à vous.
Merci d'être venu sur Bel Air Tel ce matin nous raconter un petit bout d'histoire. Allez, dans un instant, autre image incroyable. C'est une figurante de cinéma, Primaella. Elle vient de jouer avec un homme qui mesure 2 mètres 46. Moi, j'ai l'air d'être un petit kiki à côté avec mes 2 mètres. 2 mètres 46, le gars.
Bel RTL. Bel RTL.
Je ne suis pas de ceux qui changent le monde. D'autres le font pour moi. D'une vie qui dure que quelques secondes, j'ai fait si peu de choix. Je n'ai suivi que des sirènes. De mes 5 sens, le 6e, j'ai trouvé des hasards, quelques routes vers quelque part. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais où est ma chance? sans pouvoir étrange, sans ailes dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant. Je me suis trouvé en passant, au détour d'un après. Elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Ceux qui savent tout bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix, un grand fil tendu sous mes pas. Sans croyance ni prière, j'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant, mais j'en ai fait mon destin. J'ai suivi mon instinct. Mon instinct. Quand tout finira sans l'ombre d'une ombre, petit, ne m'en veux pas. Pour une vie qui dure que quelques secondes, j'aurai livré combat. Regarde bien au fond des yeux, il y a le pire et le mieux. Nos mains et nos silences disent bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton instinct.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Troisième visage de l'actualité, un visage de cinéma. Primaella est figurante au cinéma et elle joue de film en film. Elle vient d'incarner le rôle d'une passante éberluée en voyant un homme de 2,46 m passer. 2,46 m dans un film avec au casting Gilles Lelouch et Anaïs de Moustier. Primaella en ligne sur Bel RTL, bonjour. Alors, un de vos rôles, mais majeur si je comprends bien, c'est dans ce film qui s'appelle Vénus Electrificata. C'est quoi l'histoire en une seconde du film ?
En gros, c'est donc ça se passe, on est en 1930, dans une fête foraine un peu absurde. Et il y a en Stan, c'est une femme, une voyante, qui, pour les hommes qui sont un peu désespérés en amour, viennent à ce stand et cette femme va réparer un peu leur désespoir.
Ah oui, donc on est dans la forte alcool imaginaire à l'époque avec les diseuses de Bonaventure, les personnages de foire. Et là, parce qu'il existe vraiment, vous devez donc faire une scène avec un homme qui mesure 2,46 m.
C'est ça, ouais. Mais donc lui, il faisait partie, c'était une silhouette, donc il faisait également partie de la mise en scène, et il jouait le géant, fatalement, qui passait à travers la fuite foraine. Et moi, j'étais une simple passante, habillée en peu vieux jeu, et je devais donc regarder ce géant en mode « Waouh !» Voilà, et c'était très impressionnant, parce que j'arrivais à son nombril, et donc voilà. Quoi.
Ah bah oui, vous mesurez combien, vous?
Moi, je mesure 1,71 m et lui 2,46 m.
Ah ouais, mais donc je vous pose une question idiote, mais donc en vrai, indépendamment de la scène de tournage, c'est impressionnant ou pas? Sachant que moi, je me rends pas compte, je fais 1,99 m, 2 mètres, donc je suis déjà petit.
Ah oui.
Je demande à Alison.
1,57 m pour moi.
Alison a 1,57 m, donc elle est plus petite que vous. Alors, Primaella, c'est impressionnant ou pas?
C'est hyper impressionnant parce que, en fait, la première fois que j'ai vu cette personne, elle était assise et là, on se rend pas compte qu'elle est si grande que ça. Mais on voit bien que cette personne a quand même des grandes jambes. Et quand il s'est levé, ouf! Vraiment comme un arbre qui se lève.
Quoi. J'ai un peu ça avec Benjamin tous les jours.
Ah, je me rends pas compte. Voilà. Sauf que le vôtre, il est franco-algérien. Il s'appelle Brahim Takioula, considéré comme Brahim. le deuxième individu le plus grand du monde et le premier d'Europe. Vous avez un peu parlé avec lui de taille, de son rapport aux choses, aux gens, au regard. Oui. Vous avez un peu parlé avec lui?
Ben, du coup, au début, je n'osais pas trop lui parler parce que je me dis, le pauvre, il y a plein de gens qui doivent tout le temps venir lui parler. Mais j'ai quand même, au milieu du tournage, je me suis dit, allez, je vais quand même lui parler. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi grand. Et vraiment, le mec hyper sympa. Et, il n'était pas du tout fermé sur sa caractéristique. Hein,
oui, la taille n'empêche pas d'être sympa. Hein. Ça, je vous le dis d'expérience personnelle.
Oui. Oui, voilà. Mais je veux dire, on lui posait des questions sur son quotidien. Et il dit, on lui dit aussi, ça doit être compliqué d'avoir tout le temps les regards qui sont fixés sur toi. Il fait, c'est l'habitude. Et aussi, on se dit, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Il fait, non, moi, je trouve, par contre, il y a autant d'inconvénients que d'avantages d'être grand. Après, oui, j'ai des douleurs de dos. Mais sinon...
Donc il est philosophe. Il y a quand même un truc qui intrigue Alison. C'est quoi?
Quelle est sa pointure?
Ah, j'ai peur. J'ai peur qu'elle demande autre chose.
Mais, donc, c'est l'homme qui a les plus grands pieds du monde actuellement. Donc, ça aussi, c'est un record. Il fait du 58.
Waouh. Ah ouais,
c'est déjà. Ah oui, c'était vraiment des skis, en fait.
Ah ouais. Ah ben, galère pour trouver des chaussures.
Waouh.
Donc,
ouais.
58.
Il avait des sandales, là. Oui, 58.
Et alors, vous lui avez demandé si, Vous voyez,
c'est... Est-ce que c'est proportionnel?
Oui, voilà. Enfin, j'osais pas le dire, mais bon, vous avez demandé ou pas?
Il avait des grandes mains.
Ouais. Attendez, parce que justement,
bon signe, des grands pieds.
Sandrine Corman arrive. Ah donc tu dis grandes mains, bon
main,
signe.
Grand pied, grande main.
Okay. On n'a pas posé la question, mais bon, j'imagine que c'est proportionnel, je sais pas.
J'espère pour lui, parce que s'il a un tout petit rikiki...
Non, mais c'est injuste, parce que comme il est grand, même s'il a grand, ça paraît petit, vu qu'il est grand.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Franchement, je sais pas.
Attendez, parce que je dois juste résumer à Thomas de Bergeyck. Donc, oui. La citation du jour.
Je débarque. Hein.
Grande main, c'est bon signe.
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit.
Tu connaissais l'expression?
Oui, regarde mes pieds.
Ça me mettrait mal à l'aise.
On regarde tous les pieds au-dessous de la table maintenant.
Primaella, grâce à vous, je connais un peu mieux mes collègues. Et donc, on vous verra dans ce film qui s'appelle Vénus Electrificata. Vous savez quand ça sort?
Ça.